À 1h05, c'est la dernière partie de la grande table avec Anselme Japp. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes né à Bonn en 62. Vous avez grandi à Cologne et dans le Périgord. Puis vous avez fait vos études à Rome et à Paris. Et vous parlez donc et écrivez aussi bien en allemand, en italien et en français. Vous êtes donc un Européen finalement au sens où l'entendait Camille de Toledo qui était notre invité de la grande table lundi dernier. Vous tentez depuis plusieurs années de renouveler la théorie critique en proposant une nouvelle lecture de l'œuvre de Marx au sein du courant de la nouvelle critique de la valeur et vous mettez en cause ce que vous appelez, après Marx, le fétichisme de la valeur qui répond selon vous au narcissisme de l'individualisme, lequel serait lui-même le fondement de la crise actuelle. Alors évidemment c'est une crise qu'il ne faut pas considérer selon vous comme purement financière, mais comme aussi une crise précisément de la valeur. Ça fait beaucoup de concepts d'un seul coup, donc on va essayer d'aller doucement. Oui. Je rassure les auditeurs, on va essayer de progresser par étapes dans votre pensée. Pour m'aider d'ailleurs dans cette ascension, je suis avec Myriam Marzouki, qui est donc, nous sommes encordés ensemble, philosophe, habituée de la grande table. Myriam Marzouki qui est aussi metteur en scène, ce qui va sans doute aussi être utile pour essayer de rendre visibles, accessibles vos propos. Anselme Japp, je vous propose de partir du concret donc et du présent. On parle de crise maintenant depuis une quarantaine d'années, en tout cas à l'échelle humaine. Moi, je me souviens qu'en les années 70, effectivement, déjà la crise était là. Le dernier épisode, c'est un épisode incontestablement financier dans son apparence. C'est la crise de 2008. Depuis, on réalise que finalement, on a affaire à une crise qui dure, une crise durable. Est-ce encore une crise? On s'est posé la question. Quelle est votre lecture de ce dernier épisode qui a démarré maintenant, il y a 5 ans, avec les fameux subprimes?
Oui, donc effectivement, maintenant, on commence à se rendre compte que cette crise est durable, que ce n'est pas une crise passagère. Donc, il y avait après la chute du mur de Berlin une espèce d'euphorie pour le capitalisme qui semblait le dernier mot de l'histoire. Donc, c'était l'époque où on parlait de la fin de l'histoire et du fait que le capitalisme libéral correspondrait, disait-on, à la nature humaine. Mais donc dans les années 2000, donc cet enthousiasme retombait, et au plus tard, avec la crise de 2008, où d'une certaine manière on a frôlé l'abîme. Et donc il y a normalement une grande attention pour tous les côtés sombres du capitalisme. Donc on voit que le chômage n'arrête pas de grimper, il y a une misère même dans les pays qui avant étaient les plus riches. Et on voit aussi que le changement perpétuel entre politique néolibérale en économie et politique keynésienne, donc, c'est-à-dire relance de la production à travers les investissements publics, ne donne pas de résultats. Il est donc venu aussi l'heure de se demander s'il n'y a pas quelque chose de plus profond.
Et d'ouvrir le moteur de la crise pour aller chercher plus profondément grâce à Marx. Mais pourquoi cette crise dure-t-elle, selon vous, malgré tout?
Alors, cette crise dure parce qu'elle, certainement, elle inscrit dans le fonctionnement même du capitalisme. Justement, on identifie la théorie de Marx souvent avec la seule idée de la lutte des classes, de l'exploitation. Ce sont des facteurs qui, bien sûr, existent. Mais Marx, il a aussi démontré que le capitalisme a sa particularité historique dans le fait que c'est une société, pour le dire de manière très condensée, où à travers le travail abstrait, après je vais l'expliquer qu'est-ce que c'est, les hommes produisent des marchandises, donc la valeur est déterminée pas par leur utilité réelle, mais seulement par le temps qui était nécessaire pour leur production et qui se représente dans l'argent. Et donc là, c'est pas du tout quelque chose de naturel, là c'est le propre de la société capitaliste et ce sont des facteurs hautement destructeurs. Cela a été le cas dès le début. Le capitalisme a pu très longtemps renvoyer cette crise qui, de certaine manière, fait déjà partie de son noyau. Mais à partir des années 70, de certaine manière, le capitalisme a perdu sa rentabilité, même en ses propres termes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de profit pour encore pour des petites couches d'entrepreneurs, mais le système, en tant que tel, a perdu sa rentabilité et simule la rentabilité avec la finance.
Il faut dire que donc, si la rentabilité, si je vous comprends bien, décroît, c'est parce que la part du travail dans ce qui est fabriqué décroît aussi fortement.
Exactement.
Et qu'on ne peut plus exploiter, entre guillemets, la force de travail en elle-même.
Exactement. Comme l'a démontré Marx, il n'y a que le travail vivant, le travail au moment de son exécution qui ajoute de la valeur et donc de la survaleur et donc du profit. Et donc plus il y a de la technologie dans la production, moins il y a de la valeur et moins il y a finalement du profit réel.
Alors vous expliquez aussi que ça peut durer parce que le capitalisme, enfin les gens, les États, les personnes, etc., s'endettent. L'endettement fait partie de la stratégie de survie.
C'est la dernière étape. Donc très longtemps, essentiellement, pour le dire très brièvement, le fait que chaque marchandise particulière est produite et grâce aux technologies avec moins de travail vivant, donc à moins de valeur, a été compensé pendant très longtemps, presque 2 siècles, avec une augmentation de la production énorme. Donc si on fait une chemise dans 10 minutes au lieu que dans 1 heure avant, on produit 10 chemises au lieu d'une chemise, donc la masse totale des valeurs et donc aussi de survaleur grandit. Donc ce mécanisme essentiellement a trouvé sa fin vers les années 60-70 du siècle dernier, parce qu'avec la micro-informatique, d'une certaine manière, on est arrivé à un tel degré d'automatisation de la production que le mécanisme de compensation ne marchait plus. Donc à partir de ce moment-là, le capitalisme, dans ses propres termes, aurait dû prendre fin. Et il a continué depuis 40 ans à simuler pratiquement à travers le crédit une espèce de santé qui n'était plus là. Donc c'était une vie sous profusion. Et à partir de 2008, c'est aussi ce mécanisme financier qui ne marche plus. Mais dans la perception habituelle, même à gauche, même dans la gauche radicale, même dans le mouvement altermondialiste, on renverse la cause et l'effet. On pense que c'est la spéculation financière, que ce sont les bourses, que ce sont les banquiers qui sont la cause de la crise d'une économie qui autrement marcherait bien. Tandis que nous, dans la critique de la valeur, nous tentons de démontrer sur le contraire, que c'est la spéculation, c'est l'envol de la finance qui permet encore de donner vie à un cadavre depuis des décennies. Et donc la finance est la conséquence, pas la cause de ce que nous vivons.
Alors donc, récapitulons, il y a de moins en moins de travail dans ce qu'on fabrique, donc de moins en moins de profit pour le système capitaliste, d'essence pour faire fonctionner le système. Donc, du fait qu'il n'y a plus ça, on va chercher de la dette. Mais aujourd'hui, finalement, cette dette continue à croître et les États essayent de se désendetter en réduisant les budgets, en coupant dans les dépenses, etc. Là finalement, les États, alors que ceux qui font de la dette, c'est les financiers, alimentent le système, les États, de leur côté, ils essayent finalement de revenir à des vérités du capitalisme qui risquent peut-être de lui être nuisibles.
Oui, une partie du personnel politique, donc surtout à droite, propose donc de revenir à une économie saine, à un équilibre du budget, etc. Mais cela est tout à fait irréaliste parce qu'en vérité, aujourd'hui, les entreprises comme les États ne peuvent se financer qu'en faisant recours au marché financier. Parce qu'ils ne pourraient jamais aujourd'hui payer leurs infrastructures, leur aide à la production, etc., seulement avec les impôts. Donc les mesures d'austérité font extrêmement mal, évidemment, aux populations concernées. En même temps, ils ne vont pas du tout sauver le capitalisme, parce qu'en vérité, ils servent essentiellement à se donner une impression de sérieux qui permet de se endetter encore sur les marchés financiers.
C'est ça. On prolonge l'endettement, simplement.
En Grèce, par exemple, on a démoli les pays, on a jeté le pays dans la misère, mais évidemment, la Grèce ne va jamais avoir, par exemple, une économie stable. Cela sert simplement pour encore pouvoir attirer quelques aides de l'extérieur.
Alors, ce que vous dites là explique aussi le fait qu'aujourd'hui, des pays comme, sans parler de la Grèce, mais même l'Espagne, l'Italie, retrouvent des taux d'intérêt relativement faibles, bien que la situation ne se soit pas vraiment améliorée sur le plan de la dette, tout simplement parce qu'ils ont réussi à faire le sérieux apparent permet la prolongation du système de la dette.
Oui, en même temps, tout cela se ressemble un peu à une espèce de navire qui continue en vérité à naviguer simplement parce qu'on brûle peu à peu le navire même. On commence à démanteler le pont et à jeter les pièces du pont dans le chaudron. De certaine manière, ce qui est tragique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus un capitalisme en expansion. Il y a un capitalisme qui, pour se sauver encore, de certaine manière, est en train de démanteler tous les systèmes, toute la sécurité et même avec tout ce qui fait vivre la population.
Avant de donner la parole à Myriam Marzouki, un mot sur un autre concept peut-être qu'il faudrait éclairer, un concept marxiste, enfin que vous rendez peut-être marxien, c'est celui du fétichisme de la marchandise. Dites-moi aussi en quoi nous serions concernés par ce fétichisme de la marchandise. Et qu'est-ce que c'est d'abord ?
Oui, donc c'est un concept qu'utilise Marx au début du Capital, quelque peu mystérieux aussi parce qu'ironique, évidemment puisé dans l'ethnologie de son époque, où on entendait par fétichisme le fait que ce qu'on appelait à l'époque le sauvage, donc adore des idoles. Donc, en croyant que ce sont ces idoles-là qui peuvent, par exemple, faire venir la pluie. Donc, c'est-à-dire, l'homme transmet ses propres pouvoirs sur ses idoles. Et donc, évidemment, c'est le propre de toute religion. Dans la religion, l'être humain projette ses propres pouvoirs sur des dieux. Après, il oublie le fait que c'est lui qui a fait les dieux. Il croit dépendre des dieux.
C'est donc, propre de l'idolâtrie, oui.
Oui, de toute forme de religion. Donc, Marx commence historiquement avec la critique de la religion de Feuerbach. Donc, après, il démontre qu'en vérité, nous ne sommes jamais sortis de l'idolâtrie de la religion parce que nous nous trouvons face avec un système économique que nous avons créé nous-mêmes, mais qui nous dépasse totalement, où ce sont les choses qui règnent, ce sont les marchandises, après le forme, c'est le capital, ce sont les marchés financiers qui décident, et et l'humanité, même la société entière, se trouve à la traîne de ses propres créations. C'est important de le souligner parce que souvent on entend par fétichisme une simple forme de mystification de la réalité, comme une espèce où on cache par exemple aux ouvriers le fait qu'ils sont eux le véritable créateur. Là, c'est l'interprétation marxiste traditionnelle. En revanche, il est important de voir que le fétichisme est un concept absolument central parce qu'il indique justement la véritable tragédie, c'est-à-dire nous sommes dans une voiture où il n'y a pas de conducteur, il n'y a même pas une grande. Personne qui tire les ficelles. Nous sommes dans un système que nous avons créé nous-mêmes, en tant qu'humanité, mais qui, pour le moment, échappe à notre contrôle.
Quand même, juste pour que ce soit un peu concret, le fétichisme, en quoi, par exemple, dans la vie de tous les jours, nous sommes des adeptes de ce fétichisme de la marchandise, selon vous? Comment ça se manifeste? Comment on peut en avoir conscience?
Deux exemples. Par exemple, d'un côté, donc, c'est-à-dire le fétichisme, il y a cette indifférence pour le contenu. Donc, nous sommes certainement esclaves de la logique de la valorisation. Et donc, par exemple, si on produit des bombes, si on produit des jouets, donc cela, cette décision n'est pas du tout prise sur la base de l'utilité, mais si on fait davantage de profits avec les bombes, on fait les bombes et pas les jouets. Mais cela n'est justement, c'est l'important, cela n'est pas dû à l'avidité de quelques salauds des capitalistes. Cela est dans une logique structurelle qui, dans chaque côté, ne regarde que le temps de travail employé et donc qui est structurellement aveugle à la question qu'est-ce qu'on y fait. L'individu seul, si par exemple il voulait être bon et produire des jouets, il ne peut pas parce qu'il serait exclu du marché. Donc il se trouve là pratiquement victime d'un système social global. Et même chose, par exemple, lorsqu'un gouvernement prend des mesures, après, la première question, c'est toujours comment les marchés financiers vont-ils réagir?
Oui. Est-ce qu'il faut rassurer les marchés?
Oui, est-ce qu'il faut rassurer les marchés? Évidemment, les marchés, ce sont pas. C'est vraiment très primitif de penser que les marchés, que ce sont des banquiers, que ce sont des personnes, il y a une conspiration. Ce sont des mécanismes anonymes, mais quand même pas naturels.
Mireille Marzouki.
Oui, moi je voulais vous interroger un petit peu sur la manière dont on peut articuler à partir de votre travail théorique la transformation du réel, puisque si on s'en réfère à la fameuse phrase de Marx que philosophie n'a pas cessé d'analyser le monde et que maintenant elle doit aider à le transformer, ce qu'on comprend bien quand on vous écoute, c'est que l'analyse de la crise, elle n'est pas satisfaisante si l'on s'en tient simplement à la financiarisation de l'économie et qu'il faut atteindre le cœur de l'économie capitaliste ou du système capitaliste, avec les quatre concepts que vous questionnez, que vous travaillez, celui d'argent, de marchandises, de valeur et de travail. Et en lisant certains des entretiens que vous aviez déjà accordés, vous dites que, par exemple, les mots d'ordre ou les cris ou les revendications politiques portées, entre autres, par les partis de gauche qui seraient de dire « rendez-nous notre travail » ou bien « rendez-nous notre argent » n'ont plus aucune valeur, puisqu'en réalité, il ne s'agit plus de libérer aujourd'hui le travail du capital, hein, mais il s'agit de se libérer du travail à proprement parler. Alors la question que je me posais, c'est d'une part du point de vue des acteurs politiques et du point de vue des citoyens, dans quelle mesure est-ce que votre analyse, d'une certaine manière, même si elle est juste, hein, si elle est vraie d'un point de vue théorique, est-ce qu'elle n'est pas impossible d'une certaine manière à mettre en pratique? Je veux dire par là que quels acteurs politiques pourraient se saisir aujourd'hui de votre discours qui consisterait à dire que de toute façon, le plein emploi, la lutte contre le chômage, de toute façon, ce sont des projets politiques vains puisqu'on n'y arrivera jamais. Et du point de vue des citoyens, si l'on tient aujourd'hui un discours aux personnes qui souffrent de ce qui fait l'objet d'un matraquage médiatique, effectivement, pouvoir d'achat, chômage, croissance ou déficit de croissance. De toute façon, du travail, vous n'en aurez plus. L'argent, il faut cesser d'organiser l'existence autour de cette pratique. Voilà, comment est-ce que vous pensez que l'on peut s'appuyer sur votre analyse théorique pour une transformation effective du réel?
Alors, Anselme Japp. Oui. Alors, vous voilà politicien.
Oui. Alors, d'un côté, et donc, c'est évident qu'une théorie critique sociale a comme but ultime de participer à une transformation sociale, mais il est aussi important pour nous de souligner que cela ne veut pas dire d'être, la théorie ne peut pas être la servante d'une pratique immédiate. Parce que si on le fait, parce que si on ne doit penser que ce qu'on peut réaliser immédiatement, on s'empêche en vérité de toute pensée radicale. Donc d'abord, il est important aussi de revenir sur certaines bases et de dire la question, ce n'est pas simplement, par exemple, comment combattre le chômage, mais vraiment de questionner, par exemple, le rôle historique du travail, parce que le travail, dans le sens actuel, par exemple, n'a pas toujours existé. Après, évidemment, cette théorie, quand même, ne veut pas rester sur un plan purement contemplatif, mais intervenir dans la réalité. Mais là, nous sommes vraiment face à une espèce de changement historique. Pendant très longtemps, les forces critiques se sont posées le problème comment combattre un système donc capitaliste, ou comme vous voulez l'appeler, très fort, qui ne voulait pas céder. Mais si on y réussissait à faire la révolution dans la forme classique, après, c'était sûr qu'il y aurait eu des lendemains qui chantent. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation inversée. C'est le système capitaliste, de certaine manière, qui s'est sabordé soi-même. Parce que je répète, même s'il y a encore certains acteurs économiques, certaines multinationales, etc., qui font de gros profits, c'est des systèmes en tant que tels qui s'abordent. Et donc aujourd'hui, la question est plutôt quelles alternatives peut-on créer à une espèce d'effondrement qui va de toute manière arriver. Et aujourd'hui, par exemple, abolir l'argent, abolir le travail, ce ne sont plus des programmes utopiques. C'est une réalité, mais c'est la réalité économique elle-même qui le fait. L'argent est déjà largement dévalorisé parce que si, en vérité, tout l'argent qui existe actuellement sous forme hypothétique dans les bourses, dans l'immobilier, etc., revenait dans l'économie réelle, comme rêvent d'ailleurs les économistes alternatifs keynésiens, il n'y aurait ni hyperinflation mondiale, ça veut dire une espèce d'annulation de l'argent. C'est la société du travail même qui est en train d'abolir le travail parce qu'elle n'a pratiquement plus de travail à offrir à une bonne partie de la population. Donc ça veut dire aujourd'hui, la question n'est pas tellement de trouver des stratégies pour battre en brèche un système, mais surtout comment sortir de cette espèce d'effondrement qui n'est pas quelque chose qui s'est produit d'un jour à l'autre, mais c'est quelque chose qui est déjà en train depuis des décennies. Et surtout, comment s'opposer aux fausses solutions où le danger le plus grand aujourd'hui, c'est peut-être la réaction populiste. C'est le fait de vouloir donner toute la faute à des personnes concrètes, aux banquiers, aux spéculateurs, aux capitalistes, et d'éviter toute question du système, mais au contraire, de vouloir sauver l'honnête travailleur et les bons épargnants, et d'adosser toute la critique, toute la faute du monde à une espèce de conspiration des personnes moralement condamnables. Et c'est juste dans cette espèce de populisme qu'on est en train de monter un peu partout qu'il y a là, malheureusement, un dépassement du clivage gauche-droite assez, assez dangereux.
Mais alors, pour éviter justement ces déviations, est-ce que vous pouvez nous dire, Anselme Japp, comment on vit sans argent et sans travail? Bon, question un peu simple, mais enfin, vous la comprenez, je pense, oui, de la manière dont on se présente.
Mais il faut dire, d'abord, évidemment, vivre sans travail ne veut pas dire vivre sans activité, mais ça veut dire d'organiser la société d'abord en fonction des besoins et désirs réels, et après, de distribuer les activités qui sont réellement nécessaires pour satisfaire faire ce besoin. Mais dans ces cas-là, l'activité serait simplement moyenne pour un but, tandis que dans une société capitaliste, le travail est la seule source de la richesse en argent, et donc plus on travaille, mieux c'est. C'est une société qui pousse à travailler même lorsque ce n'est pas du tout nécessaire. Donc on continue à travailler dans les usines polluantes, par exemple, qui font des choses inutiles pour sauver des postes de travail. Alors, sortir de la société du travail, donc, ça ne veut pas dire nécessairement d'aller vers une société du loisir technologique. Je suis plutôt critique envers cette idée qu'on va travailler les machines à notre place. Mais c'est une société où Il n'y a pas un marché anonyme où les personnes se rencontrent sans concertation sociale, chacun simplement comme porteur d'une quantité de travail. Et l'argent également. Et donc, on présente l'argent souvent comme quelque chose de naturel, comme l'échange. Mais l'argent aujourd'hui n'est pas une moyenne d'échange. L'argent aujourd'hui est devenu le but de la production et toute production concrète, tout échange concret entre les êtres humains ne sert qu'à augmenter cette chose purement abstraite qu'est l'argent.
Donc le travail et l'argent ne seraient plus au centre du système. Mais oui. Vous dites qu'il y a un accord général au moins sur une chose, il faut continuer à vendre, à se vendre, à acheter. Il faudrait combattre le côté automate du capital qui habite également chacun de nous et donc une partie de nos habitudes, nos goûts, nos vanités, nos égoïsmes, etc. Alors ça vous habite comment par exemple ? Ou comment ça habite nos contemporains?
Oui, justement, donc, lorsqu'on parle de capitalisme, ce n'est pas les capitalistes dont les autres seraient certainement exemptes. Je trouvais extrêmement bête et dangereux le slogan du genre « Nous sommes les 99% ». Ce n'est pas du tout vrai. Nous sommes tous dans le système. Donc, il n'y a pas un petit groupe de méchants qui nous impose simplement ces règles. Bien évidemment, il existe des puissants. Mais de certaine manière, nous participons tous au système, à son imaginaire, à l'identification du bonheur avec une abondance marchande. Au même temps, il y a quand même beaucoup d'individus, ou presque tous les individus, à un moment ou un autre, qui s'aperçoivent aussi du malheur que cela crée. Et il y a donc tout ce que nous voyons aussi en termes de dépression, en termes de psychose, en termes de malheur personnel, est aussi une conséquence du fait que nous sommes obligés à nous vendre et tous les jours à vivre pour trouver des acheteurs. Donc il faut aussi sortir des structures psychologiques qui, de certaines manières, qui régissent ce système où nous vivons. Et donc c'est là, donc, en vérité, donc, c'est effectivement, ce que s'impose, c'est un changement des civilisations qui va bien au-delà d'un simple programme économique. Simple, ce qui aujourd'hui va très fort, donc cette nostalgie des années 60 qu'on trouve chez les keynésiennes, chez l'école sociologique de Bourdieu, chez le monde diplomatique, chez Attac, etc., c'est absolument insuffisant. Donc il ne suffisait pas d'avoir des retraites garanties du plein emploi pour vraiment changer de civilisation, aussi parce que cette crise n'est pas seulement économique, elle est au moins tout autant écologique et énergétique.
Sur ce point, Myriam Marzouki, peut-être ?
Oui, je voulais revenir sur la dimension de mutation de civilisation que vous avez évoquée, qui peut-être doit être pensée encore plus radicalement au sens d'une mutation anthropologique. Puisque si vous dites qu'effectivement, il n'y a pas les 99% contre les 1%, mais que nous sommes tous partie prenante de ce système, peut-être que c'est aussi parce que dans un ancrage historique profond, culturel est presque devenu naturel, les ressorts du capitalisme se sont confondus avec les propres moteurs de nos désirs, à tel point d'apparaître effectivement comme une logique de désir naturel. Du coup, puisque vous évoquez souvent la séquence historique du capitalisme comme étant une séquence longue qui débute, disons, au XVe siècle et qui aurait une société pré-capitaliste. Est-ce que, dans votre analyse, puisque cette valeur abstraite du travail, cette manière de centrer toute l'organisation sociale autour du fétichisme de la marchandise, ça commence il y a plusieurs siècles, est-ce qu'il s'agit d'un retour à ce moment-là vers une logique pré-capitaliste ou au contraire à inventer cette société post-capitaliste? Comment est-ce que vous pensez le rapport entre l'avant et l'après, ce qui est une manière de vous reposer à nouveau ma question, entre l'analyse théorique radicale que vous faites et la possibilité de penser autre chose, puisque je retrouve une formule que vous avez utilisée qui m'a semblé très, très forte, mais un petit peu problématique aussi, en disant que la critique radicale n'a pas à fournir en pièce jointe le mode d'emploi de la société idéale ou de la société alternative. Alors s'il s'agit de muter anthropologiquement, c'est l'horizon du travail est plus qu'ambitieux, alors.
Oui,
c'est abstrait, là.
Oui, c'est une nécessité qui s'impose. Le capitalisme a été une rupture anthropologique avec toutes les formes de sociétés précédentes. Et surtout parce que le capitalisme, disons, est la seule société où, il y a de certaine manière, l'abstrait prévaut sur le concret. Ce que ne veut pas dire que le concret était forcément positif dans les sociétés précédentes. Mais les sociétés précédentes ne connaissaient aussi pas cette espèce de dynamisme aveugle qui naît de l'accumulation de la valeur. Donc voilà pourquoi les
sociétés... Quand même un tout petit mot là-dessus, parce que je crois que vous dites quelque chose qui est central sur comment le capitalisme rend abstrait le concret. C'est quoi le mécanisme fondamental?
Oui, parce parce que les objets et les travaux qui les produisent donc, ne sont pas considérés, en vérité, n'étiennent pas leur valeur selon l'usage réel, selon leur capacité de satisfaire des besoins, mais comme je dis, selon la quantité de travail qu'ils représentent. Et entre ces deux côtés, il n'y a pas un équilibre, il y a une domination de ce côté abstrait, c'est-à-dire sur la pure quantité de travail. Comme je dis, une heure de travail utilisée pour produire une bombe, pour reprendre mon exemple, une heure de travail pour utiliser, faire un jouet, c'est toujours une heure sur le marché, donc c'est la même chose, donc le contenu passe complètement en deuxième plan. Ou lorsqu'en Afrique, par exemple, et une paysan, il peut toujours continuer, dans le monde entier, une paysan, donc il peut travailler son champ, il a toujours la même récolte. Mais si, par exemple, on ouvre le frontière à l'exportation, il trouve que la valeur marchande de son propre produit, qui est tout aussi mangeable qu'avant, elle va tomber d'une dixième d'avant. Et donc, il ne peut plus le vendre, il va peut-être abandonner ses terres. Donc, ce côté-là aussi, dans ces cas-là aussi, le côté abstrait, c'est-à-dire la valeur marchande d'une chose qui concrètement reste la même, a pratiquement tué le côté concret.
C'est de cela dont il faut sortir pour revenir à la question de Myriam. Donc, sur le problème d'arriver à ce changement civilisationnel, anthropologique, pour revenir au concret. Alors, ce retour au concret, ce n'est pas un retour au passé, à ce qui existait avant. C'est quoi, par exemple?
En même temps, quand même, le capitalisme, d'une certaine manière, il n'a jamais pu être une totalité fermée. Il a aussi nécessité dans son intérieur de laisser encore d'autres logiques, la logique du don, par exemple, la logique de l'entraide, du voisinage. Il y a quand même des choses qui échappent à une logique marchande. Donc, tout ce qui est, par exemple, les vies familiales, qui est amitié, qui sont en forme des associations, démontre le besoin de l'être humain aussi de faire des choses qui ne rentrent pas dans une logique marchande. Et c'est absolument invivable de vendre, d'acheter tous les jours. En même temps, les systèmes tentent aussi de ranger ces espaces-là et de commercialiser, par exemple, tout ce qu'on appelle maintenant, par exemple, l'équerre. Et donc, Alors, on ne peut pas mobiliser directement ces autres espaces du don, je pense, du cœur, etc., parce qu'ils sont déjà englobés dans ce système. Cela démontre que l'être humain ne peut jamais rentrer complètement dans l'équation marchande. Donc après, c'est différent. Il y a des parties du monde, par exemple, je pourrais citer l'exemple des zapatistes au Mexique, où ils ont encore une fond assez fort de réalité précapitaliste qu'ils tentent de mobiliser pour trouver d'autres formes. Et probablement en Europe, cela va se poser différemment. Mais il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui, d'une manière ou de l'autre, avec plus ou moins de bonheur, tentent que soit de vivre à la campagne, soit de se consacrer à des associations et des bénévolats.
Et ça, c'est déjà plus ou moins tout ce qui se passe en ce moment, à ce niveau-là. Ça vous paraît déjà un signe ou ce n'est pas encore tout à fait ça?
Je dis que justement, c'est un signe. Je pense qu'il n'y a rien qu'on peut dire ici, on est au dehors de la logique marchande. C'est aussi, parfois, les gens se font beaucoup aussi d'illusions sur la facilité des gens. On va faire une communauté en campagne et on n'est plus dans la logique de la valeur. Ce n'est pas le cas. Mais cela démontre au moins le désir qui existe chez beaucoup de gens de vivre autrement. Comme l'autre grand exemple, ce sont les explosions historiques, ce sont les communes de Paris, au 68 de Paris, où également on a vu avec un grand étonnement qu'il y avait évidemment le désir d'une vie toute différente qui sommeillait dans les gens qui attendaient simplement un événement pour les réveiller.
Et est-ce que vous pensez que ces perspectives de vie différentes, elles peuvent être formulées, analysées par les théories dites rapidement de la décroissance ou par les théories de l'écologie politique? Je pense par exemple même en particulier aux analyses qu'André Gorz a faites déjà il y a plusieurs dizaines d'années sur la manière de redonner une autre place au travail qui serait effectivement de l'ordre de l'activité et pas seulement de l'activité abstraite que vous dénoncez.
Oui, en effet, c'est-à-dire moi, la critique de la valeur, eu des échanges avec André Gorz, avec laquelle il a aussi une espèce de rapprochement à la fin de sa vie. Je pense que justement que malgré...
Parce que vous avez des mots assez durs sur les décroissants en même temps.
Bah, c'est assez dur, je trouve qu'il y a parfois une certaine naïveté, mais quand même je trouve que comme la décroissance pose au moins la question effectivement qu'il faut changer de modèle de civilisation. Et je trouve que c'est quelque chose qui souvent est absent dans le discours, par exemple, marxiste traditionnel, qui vraiment réduit tout ça d'une question d'une autre distribution plus juste, une question de justice sociale. La décroissance, comme l'école sociologique du don, pose au moins le problème d'une réorganisation de la vie. Et après, il y a évidemment une autre tradition plus radicale, la tradition des surréalistes, des situationnistes, la tradition qui vient d'une certaine avant-garde artistique qui pose vraiment la question donc, de vivre de manière tout est différente.
Vous dites, on a compris donc, que la crise de la valeur était une limite interne au capitalisme. Et donc, il y a cette limite externe, limite écologique. Est-ce que c'est au sens où on l'entend habituellement, l'écologie ?
Oui, mais quand même, la crise écologique n'est pas due simplement à une espèce d'opposition générale entre l'homme et la nature. C'est quand même, dans sa forme actuelle, au moins, c'est effectivement le fait que j'ai cité avant. Donc, si chaque produit se fait avec moins de travail, ce sera très bon d'un point de vue humain. Ça veut dire avec moins de travail, on a tout ce qu'il faut. Mais dans une société où la richesse n'est pas la richesse concrète, mais est définie par le temps de travail, il faut alors toujours produire toujours plus pour avoir la même quantité de valeur. Mais l'utilisation des ressources, elle continue à croître. Si je dois faire 10 chemises au lieu d'une pour avoir la même quantité de valeur représentée par une heure, en même temps, sur le plan des ressources, il y a 10 fois plus de ressources utilisées pour 10 chemises. Voilà pourquoi le capitalisme, d'une certaine manière, est condamné, qu'il veut ou pas, à dévorer pratiquement tout le monde concret. Parce que justement, en plus, il lui manque une organe pour toutes les questions concrètes. La logique du marché ne peut prendre en compte vraiment à la longue des questions concrètes, comme les questions écologiques. Vouloir pour toutes les propositions d'un capitalisme vert, durable, écologique, ne peuvent pas aboutir.
Comment on comprend la naissance de ce monstre qui dévore le concret ? Ça vient de quelle est l'idée au départ qui a lancé ça ?
Mais on peut effectivement dire d'un côté, il y avait déjà à la fin du Moyen-Âge effectivement une diffusion de la forme monnaie qui semble historiquement liée à l'introduction des armes à feu. Les armes à feu, donc l'introduction des canons, des fusils, ont essentiellement donné aux États et créé une énorme besoin d'argent. Donc les États proto-modernes devaient se financer d'une manière qui n'était plus possible avec l'économie naturaliste. Et donc l'État, de certaine manière, a commencé à imposer des impôts en argent. En même temps, il y avait des changements de la production, nous sommes toujours à peu près au 15e siècle, donc il y avait un passage assez rapide dans certainement d'une économie essentiellement naturaliste à une économie centrée sur l'argent. Donc, parce que le poids aussi de l'État augmente énormément à l'époque des premières et grandes guerres au 15e siècle, donc ce qui n'était plus la guerre de chevalerie. Donc après, là, il y avait une espèce, disons, de noyau de l'économie monétaire. Donc après, quand même, le capitalisme s'est déchaîné lorsque cette forme monétaire a trouvé la révolution technologique, donc la révolution industrielle au XVIIIe siècle. Donc là, cette forme monétaire a commencé, donc, d'une certaine manière, à coloniser la société tout entière.
C'est l'abstraction de l'argent, finalement, quand même.
Oui,
on peut dire ça comme ça.
Oui, mais l'abstraction de l'argent, ça reste quand même resté relativement une abstraction, si elle n'était pas alliée à la technologie.
Une dernière question, Myriam Marzouki.
J'avais juste une question qui est un petit peu en décalage avec ce qu'on évoquait maintenant, mais par exemple, sur les propositions concrètes autour du travail que développe, par exemple, André Gorz, sur l'idée d'un revenu minimum qui serait non pas un revenu garanti indépendamment du travail, mais qui serait déconnecté de la durée du travail. Est-ce que vous pensez que c'est une proposition qui est encore molle et réformiste, ou c'est quelque chose qui va dans le sens de la critique radicale de la valeur ?
La question, ce n'est pas réformiste ou radical. La question n'est pas de faire une espèce de surenchère dans le radicalisme. La question, c'est de se demander qu'est-ce qui est réaliste. Justement, on a toujours reproché aux critiques radicaux de n'être pas réalistes. En vérité, ce sont en général les réformistes qui ne sont pas réalistes. Parce que et l'idée d'un revenu garanti, évidemment, est bon pour détacher les individus de l'obligation de se vendre. Mais d'une certaine manière, cette proposition présuppose que l'économie continue à tourner, qu'il y a assez d'argent réel, que l'État peut le trouver quelque part. Si, en vérité, nous sommes dans une situation réelle d'une dévalorisation totale de l'argent, on ne voit pas où l'État peut trouver des ressources monétaires. Et c'est justement ce qu'André Gorz, à la fin de sa vie, a d'ailleurs admis. Donc, il est un peu revenu sur ses idées. Là, il faudrait plutôt arriver à une redistribution des ressources concrètes, donc des bâtiments, de terrains, d'ateliers, d'usines, et pas à une redistribution de la forme argent de plus en plus vide.
Vous affirmiez, Anselme Jappe, dans votre dernier livre « Crédit à mort » qui est publié aux éditions Ligne, que les seules propositions réalistes dans le sens où elles pourraient effectivement infléchir le cours des choses sont du genre abolir tout de suite, dès demain, toute la télévision. Alors vous nous laissez France Culture quand même.
Oui, bah, la radio c'est moins nocif probablement.
C'est moins nocif. Merci beaucoup pour cette note d'optimisme. Ouais. Anselme Jappe, merci d'avoir accepté notre invitation. Je renvoie bien sûr à la page de la Grande Table sur le site de France Culture pour retrouver la liste de vos principaux ouvrages. Merci également à Myriam Marzouki. Je signale que vous êtes lundi 13 à 10h à un colloque, c'est à Paris 7, sur le thème « Marx est-il nécessaire pour penser l'écologie politique ?» Toutes les informations disponibles évidemment sur la page de la Grande Table. Et bien demain à partir de midi, vous retrouverez Caroline Brouet en direct d'Haïti. C'est donc la fin de cette émission réalisée avec Vincent Abouchard et la technique Emmanuel Morse d'un camp.